Bon matin à tous. J'espère que ça va bien. Monsieur Saint-Don, en remplacement de Max Hawk, comment ça va?
Oh, très bien, et toi, Jeff?
Ça va bien. Monsieur Veto, je suis en forme.
T'es allé t'entraîner, fais des chin-ups.
Je ne voudrais pas aller m'entraîner, mais des chin-ups.
Ouais, à Baison Québec, le mot est donné. Là, on essaie de me battre au niveau du nombre de chin-ups. Vanessa Riopelle est sur mon cas aussi. Là, fait que,
ouais, Sylvain, je ne sais pas si tu
te rappelles. C'est bien mignon, vos efforts.
Notre premier party de Noël, j'avais un t-shirt avec ta face, c'est marqué MVP dessus. Fait que depuis ce temps-là, j'essaie d'être copié, de devenir le deuxième Sylvain Saint-Don.
Très bon, très bon.
Hey Sylvain, ce matin, c'est toi qui as né l'idée, en fait, d'avoir un jeune athlète. On voit sa face, là, Zach Gagnon. C'est toi qui a amené l'idée, puis je trouvais ça excellent. Parle-moi un peu de cette idée-là, puis pourquoi tu voulais avoir Zach ce matin?
Ben, Zachary, premièrement, c'est le fils de Vincent Gagnon qui est impliqué avec nous comme coach à plusieurs niveaux. Là, Vincent, c'est un monument sur la Rive-Sud de travailler dans le 2A. Elle s'occupe du baseball féminin, a donné un coup de main à la gouvernance, justement des gouverneurs sur la Rive-Sud. Il est évidemment, avec Simon Duchesneau, son complice des 6 dernières années, c'est lui qui tient à bout de bras la classique Claude Raymond, qui font une job incroyable sur du temps passant, là. Donc, Vincent est impliqué là-dedans depuis longtemps et Zachary est son fils, évidemment. Donc, il a pu avoir tous les chemins de la structure puis toutes les ramifications de Baseball Québec. Ce que je trouvais super intéressant avec Zach, c'est qu'on vient justement, on en parlait la semaine passée, du modèle, le nouveau manifeste qu'on va publier cette semaine sur nos sites, qui explique le haut niveau. Puis, on a le chemin comme parfait pour nos joueurs pour aller jusqu'au niveau supérieur. Puis, Zach n'a pas emprunté ce chemin-là. Puis, je trouvais ça très important d'entendre son parcours, d'échanger avec lui un matin, parce qu'il n'a pas été nécessairement dans la braquette conventionnelle du processus. Donc, c'est pour ça que je voulais l'avoir avec nous. Là, je trouve que ça va être intéressant.
Comment ça va, Zach?
Ça va bien et vous? Merci de l'invitation. Ça
fait plaisir. De retour au Québec depuis peu?
Oui, depuis mardi.
Solide. Ouais. Avant d'aller dans ton parcours, là, je veux juste mentionner aux gens qui nous écoutent qu'on est disponible sur Spotify, également Apple Podcasts, Google Podcasts et tout bon podcatcher. Zach, je veux que tu me parles de ton parcours, justement, qui est un peu atypique. Là. On parlait tantôt avec Sylvain, t'as pas nécessairement fait le A, t'as fait le 2A, à l'ABC, t'étais pas là. Parlons un peu du processus là, de ta carrière.
Oui, dans le fond, moi, j'ai joué ici mon baseball mineur à Sainte-Julie sur la Rive-Sud. Puis comme on parlait avec Sylvain, j'ai fait le 2A, mettons, les Pee-Wee 2A avec les gouverneurs pendant que, aucunement à cause de lui, mais pendant que mon père était à la gouvernance de tout ça, j'ai fait mes deux années Pee-Wee 2A ici avec les gouverneurs. Même chose, Bantam 2A avec les gouverneurs. À ce moment-là, j'étais receveur. J'ai fait... c'est ça, les gouverneurs. Ensuite, je suis monté Midget 3 avec les Patriotes de Mortagne, où j'ai été au secondaire là, durant mes 5 années sous Maxime Hawkinson et maintenant Michael Bélanger. Puis ensuite, à 17 ans, c'est là que j'ai fait l'ABC. Toujours à ce moment-là, toutes ces années-là, puis oui, j'étais un receveur, j'étais Areco. Ensuite, Bantam, j'étais receveur. Puis c'est vraiment ma deuxième année à l'ABC, dans le fond, mon premier hiver à l'ABC avant que je joue ma dernière été avant de partir au collège, que là, j'ai transféré, bien, je me suis changé, dans le fond, en lanceur. Puis c'est là, comme ça, je suis parti ensuite lanceur au collège.
Zach, je t'interromps 2 secondes. je t'interromps tout de suite, Zach, parce que je veux que tu me jases un peu des Jeux du Québec. À l'époque que tu le faisais, pour une dernière année, on va vivre à 15 ans. Ouais. Et toi, tu es arrivé à 14 ans aux Jeux du Québec comme ça, tel, parce que c'était à chaque 2 ans, si je me souviens bien. OK, exactement. Puis ça n'a pas bien été?
Dans le fond, moi, c'était ma première année Bantam, donc j'avais 14 ans. Puis en étant très honnête, on était 12 joueurs avec les gouverneurs, puis j'ai probablement été le 12e joueur choisi. La raison, c'est que justement, je commençais à être receveur, puis on avait besoin d'un deuxième receveur. Mais là, ça, c'est une affaire qu'en même temps, je suis content de pouvoir dire ça, parce qu'il y a toujours eu du monde qui peuvent dire, parce que ton père, il fait ci ou ton père, il fait ça, c'est pour ça que tu fais ces niveaux-là. Mais là, on a une preuve parfaite que, justement, ma première année, c'était les Jeux du Québec, puis mon père était assistant coach. Je pense que c'était Nicolas Loiseau qui avait coaché cette année-là avec Kevin Tremblay. Mon père, c'était un des assistants. Puis j'avais pas fait l'équipe, finalement. Mon père, évidemment, il était un assistant. Il avait pas tout le pouvoir de décision. Mais quand même, j'avais pas fait l'équipe des Jeux du Québec. Puis avec, c'était entièrement compréhensible parce que notre équipe de la région cette année-là était très, très, très forte. Puis
moi, la Rive-Sud.
J'étais encore en train de me développer comme receveur, puis j'avais pas les qualités, les atouts pour faire l'équipe, mais on jasait avec Sylvain, puis c'est une drôle d'anecdote qu'on peut raconter que mon père avait décidé de pas me prendre techniquement pour les Jeux du Québec.
Est-ce qu'à cette époque-là, tu trouvais la décision correcte ou c'était
décision,
différent?
Moi, je pense que la décision était correcte. J'ai pas. Je me rappelle, je pense que mon père et Nicolas Rozo me l'avaient annoncé pendant que dans ce temps-là, il y avait encore le défi Bantam, je pense qu'on a
appelé. Oui.
Puis il me l'avait annoncé pendant qu'on était là, puis c'était, j'avais pas eu de problème avec ça. Là, je savais, je voyais, puis surtout que mes coéquipiers, on avait une saison incroyable cette année-là. Là, ça me surprenait pas de pas être là. Fait que j'étais correct avec la décision. Là, il n'y a pas eu de rancune à rien.
j'aime ta réponse dans le sens que, Sylvain, la semaine passée, on a parlé de ça, des fois, la réaction des parents et des athlètes par rapport à certaines décisions, puis pas comprendre pourquoi que ça se passe. Mais c'est ça. C'est le fun de voir que si à cette époque-là, tu comprenais la décision, puis que ton père et le coach ont été capables de bien te l'expliquer, c'est merveilleux. Ouais. Avant d'aller plus dans les détails d'un peu ton parcours puis de quelques anecdotes, tu fais quoi présentement? Depuis que tu as quitté l'ABC, c'est quoi qui ton parcours exactement au collège?
Dans le fond, quand j'ai quitté l'ABC, j'ai joué ma dernière été avec l'ABC en 2018 sous Maxime Harkison, qui était notre coach. On a eu un été, vraiment un été incroyable. On a fait plusieurs tournois aux États-Unis. Ça avait super bien été. La plupart des gars, on partait justement pour notre première année de collège à l'automne, en août 2018. C'est là que je suis parti au collège. J'ai fait 2 ans à Clarendon College, qui est un petit junior college au Texas. Dans le fond, ma deuxième année a été coupée courte. Là, c'était l'année du COVID en mars 2020. Ensuite, je suis revenu à la maison. Puis là, à ce moment-là, c'était ma deuxième année. Fait que déjà, depuis l'automne 2019, je commençais à parler avec des écoles de la NCAA, des écoles Division 1, qui était évidemment mon objectif en sortant du Junior College. Puis là, ça allait quand même couper court un peu le processus. Quand le COVID est arrivé, je parlais avec certaines écoles qu'on était proches peut-être d'aller en visite là ou qui viennent me voir lancer. Puis quand le COVID est arrivé, évidemment, tout ça a été annulé, ça n'a pas pu se faire. Je suis revenu au Québec. Puis ça a quand même été une bonne période parce que j'en ai profité ici. C'était mars, j'ai pris le mois de mars quand même relax. Mais ensuite, dès le début du mois d'avril, qu'on pouvait sortir dehors un peu, j'ai recommencé. C'est une autre chose avec mon père. On allait se lancer. J'ai un terrain de soccer à côté. Tout le mois d'avril, mai, je me suis entraîné. Je finissais mes cours à distance. Je me suis entraîné. Je me suis dans mon sous-sol. J'allais me lancer. J'avais un programme de lancer que je faisais pas mal à tous les jours ou presque. Avec mon père au terrain. Puis ensuite, c'est ça. Pendant le COVID, à ce moment-là, j'avais déjà une ou deux offres de Division 1. Puis j'ai eu une bonne offre de Tarleton State University. Donc, j'ai accepté cette offre-là pendant le COVID. Puis ensuite, je suis parti en août 2020. Dans le fond, l'été 2020, c'est l'été que j'étais supposé de partir dans la Ligue collégiale, je pense qu'on va en jaser, que j'ai joué cet été. Finalement, à cause des frontières, puis de la COVID, puis tout ça, que j'ai pas pu jouer. Donc, j'ai joué ici avec les guerriers encore dans le junior élite. Puis c'est ça. Là, je suis parti en août 2020 pour ma première année à cette université-là. Je suis revenu ici pendant les vacances de Noël. Je suis revenu ici quelques jours en mai. Puis ensuite, là, cet été, je suis reparti dans une ligue, la Northwood. C'est une ligue collégiale, dans le fond, qui regroupe la plupart des joueurs NCAA Division 1. Il y a certains joueurs aussi Junior College ou Division 2, mais c'est vraiment plus une ligue qui regroupe des joueurs Division 1. Puis après une saison sous les attentes au printemps, je suis allé là cet été, puis ça s'est très bien déroulé. Puis là, je viens de revenir de mon deuxième automne à Tarleton State, puis j'ai quelques semaines ici avant de repartir après les fêtes de Noël.
Il faut comprendre, Jeff, que présentement aussi, tout le marché américain des collèges est stocké un peu parce qu'on a rajouté une année d'éligibilité à tout le monde. Donc, il n'y en a pas qui sortent de l'entonnoir. Donc, pour rentrer, c'est beaucoup plus dur. Donc, les joueurs sont confrontés du JUCO vers les divisions 1. C'est plus pénible. Zach, j'aimerais ça que tu nous jases un petit peu de ton... À 16 ans, tu fais le midget 3.
Oui.
Ça arrive sud.
Ouais,
et par la suite, tu fais l'ABC. Comment ça se passe? T'es receveur? Comment tu deviens lanceur? Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Dans le fond, j'ai fait l'ABC. J'ai eu une année, j'ai pas eu une mauvaise année dans le milieu 3 en 2016. Ma force, c'était j'étais ma défensive. Je pense en tant que receveur, ça avait été ma force. Le bâton, ça avait jamais vraiment été une force, mais j'ai assez pour qu'ensuite, tout l'hiver, puis en avril 2017, j'ai été confirmé avec l'ABC. Puis là, j'avais toujours eu quand même un bon bras, puis j'étais capable de dépanner, mais j'avais pas lancé le. J'avais lancé un peu ma deuxième année bantam, mais j'étais principalement receveur. Puis mon année midget 3, j'avais juste été receveur. Puis ensuite, en 2017, j'ai fait l'ABC. J'ai comme receveur. Ça n'a pas été une année si facile que ça. Justement, le bâton, ça allait pas super bien. Mais j'ai été receveur. Je jouais de temps en temps. Tu sais, ça s'est pas commencé comme un gros été. Puis ensuite, avant qu'on parte aux Jeux du Canada, finalement, j'ai été amené là-bas comme lanceur. J'avais lancé peut-être 2 fois dans l'été. Puis finalement, j'ai été amené dans une grosse situation où je partirais pas trop en détail. Je me rappelle la première fois, ou la deuxième fois, je pense, j'ai lancé. J'étais embarqué contre, on jouait contre Saskatchewan. On avait déjà perdu une coupe de game, puis on pouvait pas se permettre de perdre encore. Puis j'avais lancé deux fois dans l'été. Je pense, la première fois que j'ai embarqué, j'avais les buts remplis en première manche. On avait donné trois points déjà.
Bien.
Pas de retrait. Puis là, j'avais eu, ça tombe, j'avais eu trois strikeouts en ligne. Puis après, ensuite, je pense que c'est là qu'on a découvert ouais, c'est ça. J'étais sorti du pétrin un peu cette manche-là. Puis après, ensuite, j'avais continué comme lanceur. Le reste de l'été, mais je faisais encore les deux lanceurs-receveurs. C'est vraiment l'automne 2017, puis on avait un excellent coach, Marc-Antoine Birbé, qui est encore là, évidemment. Que là, j'ai commencé vraiment tout l'hiver à l'OBC, je m'entraînais comme lanceur. Même si malgré que je faisais encore un peu de receveur, mais on savait que pour me rendre dans les collèges, là, la vision, c'était plus en tant que lanceur. Puis je pense que tout a bien fonctionné, évidemment. Fait que c'est ça. Fait qu'en 2017, vers la fin de l'année, c'est là que j'ai vraiment commencé à tirer à 90-95% m'entraîner en tant que lanceur, puis en essayant pour me faire recruter pour le collège.
Jeff, c'est quelque chose d'assez le fun qu'il mentionne, parce que tu sais, dans toute notre structure avec les plus jeunes, etc., on entend souvent des parents, des certaines personnes de mentionner, de dire « Ah, mais il a commencé à lancer quand il était bien jeune. » L'important, c'est pas d'être lanceur, c'est d'avoir un bon lancer, c'est d'avoir une belle action de bras. Puis je me souviens, Zach, il avait vraiment une action de bras merveilleuse, puis ça, bravo à Vincent de l'avoir éduqué là-dessus, mais à 8, 9 ans, 10 ans, on l'amenait dans des écoles de baseball qui nous donnent un coup de main pour travailler avec les jeunes parce que son action de bras était belle. Donc, à mesure, dès que tu as une belle action de bras comme joueur de baseball, après ça, tu as transformé en lanceur, là, c'est relativement facile. C'est pas comme un sport de glisse en scalpin où faut que tu construises tout ton système vestibulaire puis etc. Tu sais, on n'est pas là-dedans du tout. Donc, c'est pour ça que, avec les plus jeunes, on a l'occasion de s'en reparler au printemps, là, mais avec les plus jeunes, il faut se poser la question à partir de quand qu'on a besoin du lanceur. Tu sais, les lanceurs qui donnent 23 buts sur balle dans un match puis qu'il y a 4 balles qui sont frappées en même temps. Est-ce qu'on améliore le jeu en fonction de quelqu'un qu'on n'a pas besoin d'améliorer sur une butte, tu sais? Puis il faut distinguer bonne action de bras puis lanceur là, dans la discussion, mais je trouve ça vraiment le fun. Il y a aussi, Zach, il y a un morceau important qui fait partie de ton développement, ta croissance.
Oui, c'est sûr que ça joue un gros rôle. Là, dans le fond, puis j'en parlais la première année Bantam, quand j'avais pas fait les Jeux du Québec, c'est surtout ça. J'étais encore quand même assez petit. J'avais pas si gros non plus mes premières années Bantam. Même deuxième année Bantam encore. Et puis même en montant jusqu'au midget 3, là, tu sais, j'avais peut-être pris un peu de poids avant mon année. Je pense que c'était secondaire 4 ou 5. Mais c'est sûr, comme tu dis, ça a été quand même sur le tard que j'ai grandi un peu, mettons, mon année midget. Puis que vraiment, même quand je suis parti, je dirais je suis parti au collège mon premier automne, puis j'étais pas encore... C'est sûr, ça a été un peu difficile l'été 2018 parce qu'on avait joué beaucoup de tournois aux États-Unis, on avait joué beaucoup de games. On était sur la route, fait que c'est quand même plus difficile de maintenir un poids, juste le maintenir sans même pas essayer de prendre du poids. Mais oui, comme tu dis, ma croissance quand même s'est faite sur le tard. Mais tu sais, je pense qu'une des raisons aussi pourquoi on pouvait voir que je pouvais être un lanceur, c'est que même quand j'étais pas si grand ou pas si gros, j'ai toujours eu des longs bras. Fait que ça, c'est peut-être une indication que j'allais pouvoir faire quelque chose en étant comme lanceur. C'est ça.
Mais c'est l'effet catapulte, hein, Jeff? Ouais. Plus tu as un grand levier, plus la catapulte est prononcée, ben plus tu peux générer de la force et de la vitesse. Mais en même temps, plus tu peux te tromper dans le point de relâchement. C'est pour ça que des fois, les grands bras, on va être capable de générer beaucoup de force, de vitesse, beaucoup de vélocité, mais la précision ne sera pas toujours au rendez-vous. Là. Ça va prendre un petit peu de temps avant d'obtenir cette précision-là. Tandis que quelqu'un qui a un bras plus court risque d'être plus précis, mais à un moment donné, il va quand même avoir de la difficulté à générer là, assez de vitesse. Là, Zach, tu mesures combien? Tu pèses combien?
Là, je suis 6 et 2. Puis je te dirais, là, mettons, je vais en profiter pendant le temps des fêtes là, d'avoir des bons repas de maman puis des bons restos du Québec. Là, je suis à 187 livres, mettons.
OK, OK.
Quand je suis parti, mettons, à l'automne 2018, quand je suis parti ma première session au collège, je pense que j'étais à 168. Fait que dans les deux, ça fait quelques années, mettons, 3 ans et demi, au collège, j'en ai profité pour justement à mon premier collège, j'habitais dans les dortoirs sur le campus, puis on mangeait à la cafétéria tous les jours, qui était pas nécessairement de la bouffe grandiose, en étant un collège un peu au milieu de nulle part au Texas, mais une fois que je rentrais en cafétéria, on avait une carte étudiante, j'ai ma carte étudiante, puis je peux rester là, je peux manger le nombre d'assiettes que je veux, je pouvais rester là le temps que je veux. On avait un bar à salade, il y avait plein d'options. Fait que ça a été vraiment quelque chose, je pense, qui m'a aidé aussi. Les gros entraînements qu'on a eu au collège, j'en ai profité pour prendre du poids, manger beaucoup, on courait, on faisait beaucoup d'entraînement. Fait que tout ça, en gros, ça l'a aidé, là.
Avec un taux de gras en bas de 10 % évidemment.
Ouais, je pense pas ça, par exemple, ça n'a pas augmenté. Ça, j'essaie de l'augmenter un peu, mais il veut pas. Il reste le temps à 19 % là, je pourrais monter, mettons, à 10-11, mais ça veut pas.
Ouais, c'est ça.
J'ai envie de t'entendre sur ton adaptation, parce que tu viens de parler du Texas dans le milieu de nulle part, là, ton adaptation, non seulement avec les États-Unis, mais la langue anglaise. Je sais pas si tu étais fait le mien avec l'anglais, mais aussi l'accent là, des gens au Texas, c'est une autre, c'est affaire. Vrai. D'être tout seul, pas de parents, tout ça. Parle-moi donc un peu de ton adaptation au complet. Là, de
Je dirais difficile. Au début, c'est sûr, je suis parti quand j'étais quand même jeune, j'avais 17 ans. Même aux États-Unis ou même ici, les gars, ils partent plus à 18 ans. Pour comme ça, pendant leur première année, ils ont 18, ils tournent 19 ans. Moi, j'avais 17 ans, j'allais avoir 18 ans après. Fait que j'étais quand même encore jeune. L'anglais, côté, tu sais, parler, en comprendre, ça avait toujours bien été justement à cause de tous les tournois qu'on a fait aux États-Unis. Okay. J'ai regardé beaucoup de baseball puis de hockey quand j'étais jeune à la TV en anglais qui m'avait vraiment aidé. Fait que ça, ça n'a pas été tant un gros problème, mais comme tu dis, j'avais jamais entendu parler du l'anglais du Texas. Ça a été quand même un choc. Je me rappelle un des premiers cours que je suis rentré. Puis là, je pense que c'était un cours de maths ou un cours d'anglais, justement. Je suis pas exactement sûr. Puis j'ai entendu le prof parler. Là, j'étais là, wow, là, c'est différent. C'est de l'anglais, mais c'est pas de l'anglais.
Ça va être
de l'anglais que j'entendais qu'on allait en Floride ou sur la côte Est. Là. Fait que c'est ça, c'est différent. Mais ça a bien été à ce côté-là. Puis ça m'a pas pris tant de temps. M'ajuster côté école. Au baseball, c'est sûr que c'était quand même une grosse différence que notre collège, là, la ville où j'étais, c'était 2000 personnes. Il y avait absolument rien dans le... Puis il y a d'autres joueurs du Québec qui racontaient ça, des histoires de junior college, que c'est un peu... la plupart, c'est ça, c'est des petites villes avec pas grand-chose à faire. Je pense que justement, c'est pourquoi ça devient tellement une bonne option pour les Québécois, juste pour les jeunes en général, parce que tu t'en vas là puis t'as pas vraiment d'autre chose à faire que concentrer sur l'école, te concentrer à te développer en tant que joueur parce que tu as accès au terrain, tu as accès à tes cages de frappeurs, tu as accès à tout quand tu veux. Fait que c'est, puis t'as pas vraiment de distraction, il y a rien à faire là-bas. Fait que
c'est beau pour aller au Walmart, Zach.
Exact. Puis même moi, ma ville, on n'avait même pas de Walmart. Je sais pas, il n'y a pas beaucoup de villes aux États-Unis qui n'ont pas de Walmart, mais ça,
non, effectivement.
Ça, c'est la preuve ultime que c'était pas une grosse ville, il n'y avait pas de Walmart. Mais fait que l'adaptation au début, ça a été quand tu sais, c'est un. Pour réaliser, moi, je suis de la région de Rive-Sud, qui est quand même proche de Montréal. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup de villes autour. Puis là, me rendre dans le milieu de nulle part, ça a été quand même, au début, il a fallu que je m'ajuste. J'ai fait OK. Mais ça tombait bien, là, mon coach en bras cette année-là, c'était Tommy Rice-Cruz, un gars de Montréal. Lui, c'était sa deuxième année. Fait qu'il m'a aidé beaucoup à m'adapter. Il y avait d'autres Québécois aussi. Puis ma deuxième année, j'avais moi, Derek Lamontagne, puis Mathieu Sirois, un gars de Québec. Fait j'ai toujours aussi des Québécois avec moi. Ça m'a aidé beaucoup, là, là-bas. C'était plus facile. Passer du temps, profiter du temps quand, mettons, tu t'ennuies un peu ou que tu es loin de chez vous. Puis là, finalement, tu peux aller à l'autre porte d'à côté parce qu'on était dans les dortoirs puis aller jaser en français, en bon québécois puis avoir du fun avec les gars. Là, c'est sûr, ça a aidé l'adaptation aussi.
Et les joueurs qui viennent de l'extérieur, Zach, ça ressemble à quoi? Ou qui sont pas américains, genre?
Moi, au collège, mettons, à Clarendon, là, je me rappelle, ma deuxième année, quand on a joué la première game de l'année, j'étais lanceur partant. Puis le terrain au complet, notre terrain, il n'y avait pas un joueur que leur langue première, c'était l'anglais. Écoute, ma première année, mon premier automne à Clarendon, je pense qu'on avait 5 Américains sur 40 joueurs. On avait des gars du Panama, de la République dominicaine, de Porto Rico, si on avait au moins 10-12 toutes les années. On avait des Canadiens, on était, je pense, 2 ou 3 Québécois avec d'autres gars d'Ontario puis Colombie-Britannique. On avait 2 gars de la France, on avait des gars du Mexique. Puis on avait vraiment des gars de partout, quasiment, sauf des Américains. Fait que c'était drôle.
Tu fêtais Noël à tous les jours, là.
Ouais, quasiment. Fait que non, c'est ça, justement, la première game de ma deuxième année, Derek joue au troisième but, moi j'étais sur le lanceur, on avait Mathieu joue au premier but, notre alignement au complet, il n'y avait personne que sur le terrain, ça parlait en anglais, c'était tout en français, en espagnol, puis ça parlait en anglais sur le banc. Là, notre coach, il était un peu désespéré, il revenait, puis il comprenait rien de ce qu'on disait. Des fois, moi, je débarquais de la butte, je jasais avec Derek, on jasais avec Mathieu, c'était le fun, c'est quelque chose de drôle, que c'est le genre de choses que tu vas te souvenir longtemps, là, que... T'arrives pas ouais, tous les jours, mettons.
C'est une belle expérience. Puis Sylvain, je sais pas si je me trompe, mais est-ce que c'est possible qu'on parle pas assez des JUCO? On a tout le temps en tête d'envoyer nos enfants, ou de ce que j'entends, là, d'aller en division 2, en division 1. Mais les JUCO, ça me semble une super belle option. Puis comme il vient de le mentionner, Zach, tu sais, il y a tellement pas de monde, puis t'es concentré sur le baseball, puis ça veut pas dire que tu peux pas aller au prochain niveau, même si tu vas dans un JUCO, là.
Ben, la question est excellente. Jeff, les prochaines semaines, on va voir les bowls envahir la télévision, les Rose Bowl, les Cotton Bowl, tous les bowls américains. Puis évidemment, on regarde des stades pleins, puis il y a pas un athlète qui rêve pas de d'être impliqué là-dedans, puis de dire, ah, moi, je veux être là-dedans, division 1, blablabla. C'est excessivement dur et compétitif. Tu sais, nous, on sort du secondaire à 17 ans, le restant du continent sort à 18 ans de secondaire. Puis parmi tous ces joueurs-là, il n'a même pas 7% qui s'en vont en division 1, parce que le calibre est trop fort. Donc, les JUCO, qui sont comme l'amorce des deux premières années universitaires, si tu veux, ben, ça demeure un super beau calibre, parce que tu vas avoir beaucoup de 19 ans, de 18-19 ans qui sont là. Puis tu vas pas affronter nécessairement des 21, 22, 23 où c'est des joueurs vraiment aguerris puis super performants. Donc, ça demeure un très bon niveau de compétition. Puis c'est fort, Zach, là, je suis convaincu que vous aviez pas une grosse équipe aussi à ce moment, je pense.
Non, ma première année, c'est ça. Ma première année, puis on n'avait pas nécessairement une grosse équipe, puis on était quand même dans une bonne conférence. Fait que la première, je pense qu'on avait joué pour 500. Moi, en tant que lanceur, c'était honnêtement mon... 2018, ça a été vraiment ma première année de lanceur. Puis la saison 2019, ma première année au collège, ça a été ma deuxième saison vraiment en tant que seulement lanceur. Fait que j'apprenais encore. Puis ça n'a pas été facile, mais j'étais lanceur partant toute l'année. Ça tombait qu'on jouait deux games le vendredi, deux games samedi. Moi, je lançais la dernière le samedi. Fait que la quatrième game du week-end. Fait que souvent, les bras, ils commençaient à se faire rare. Fait que mon coach, je pense que j'avais sur mes 11 derniers départs, j'avais eu 13, je pense, sur les 11 derniers. Il y en avait 7 ou 8 que j'avais eu en haut de 100 lancés. Fait que mon coach, il savait qu'il pouvait me laisser là longtemps. Souvent, je me faisais exposer un peu, mais c'est de l'apprentissage. Pour moi, ça avait été de l'apprentissage. Puis ensuite, quand je termine ma deuxième année, fort d'avoir appris cette première année-là, à l'automne, ça avait super bien été. Puis là, j'étais bien parti pour une bonne deuxième saison avant que le COVID arrive. Mais comme tu dis, c'est un bel endroit pour vraiment se développer. Puis pas nécessairement jouer contre des juniors, seniors qui ont 21, 22 ans, qui aspirent, qui sont sur le bord de se faire repêcher. Mais vraiment juste des 18-19 ans, première, deuxième année. Puis il y en a beaucoup là-dedans qui vont monter division 1 après. Puis ils vont être très bons. Ils s'en vont dans des gros divisions 1 ou des écoles comme ça. Puis ils vont avoir des très bonnes carrières au niveau universitaire ensuite.
Il faut comprendre aussi les divisions 1. Un coup qu'ils t'ont vu, bien performer au niveau des JUCO, ça leur tente plus de donner un scholarship et d'investir de l'argent à toi. C'est plus réalisable un petit peu que si tu as 17 ans, là, on est dans une projection pour dans 2 ans, c'est plus difficile un peu pour les divisions 1 de s'avancer, mais la compétition est féroce. Conte-nous, Zach, au niveau de l'école, comment ça se passe? C'est-tu dur? C'est une belle immersion du côté américain par rapport à l'université qui s'en vient?
Ça a super bien été. Moi, j'ai, dans le fond, puis ça, c'est quelque chose que je conseillerais surtout à tous les joueurs qui vont aller JUCO puis tout ça. Dès que je suis arrivé JUCO, je voulais m'assurer que je prends le plus de cours possible, puis des cours quand même difficiles que je savais qu'ils vont transférer à mon université que j'allais après, peu importe que ça soit NCA, division 1, 2 ou 3, juste des cours qu'ils allaient transférer. Parce que ça, c'est quelque chose justement avec tous les joueurs internationaux qu'on avait à l'école. La raison pourquoi eux, ils vont JUCO, c'est plus parce qu'ils n'auraient pas les notes ou ils ne seraient pas capables d'aller NCA. Et moi, mettons, c'était parce que c'était meilleur pour mon développement, puis c'était la seule offre que j'avais en sortant de l'OBC. Mais ça va super bien, là. Ensuite, j'ai ça que j'ai fait pendant 2 ans. J'ai pris des bons cours qui allaient transférer où je suis maintenant à Tarleton. Puis là, je viens de finir au printemps 2022, qui s'en vient dans 5 mois, je vais graduer et avec mon bac en finance. Je vais avoir fini en 4 ans, comme ils font aux États-Unis. Dans le fond, j'ai fait une année de cégep ici l'année que j'étais à l'OBC, puis ensuite, je suis parti. Puis là, ça a super bien été. Quand je suis arrivé à l'université, c'est sûr que c'est des cours de troisième, quatrième année. C'est un peu plus difficile, évidemment, que ce que j'avais eu à Clarendon, qui est sans nécessairement dire facile, que c'était pas les cours les plus difficiles. Puis tu sais, si t'es à tes affaires, dans tes devoirs, ça va pas être... Tout ça, vraiment, c'est une autre raison aussi. C'est que tu peux tellement te concentrer sur le baseball, parce que l'école, ça va pas... Tu vas pas être dans le jus tout le temps avec l'école. Mais non, fait que ça a super bien été. J'ai transféré à l'école à Tarleton, une autre école au Texas aussi qui a aidé, parce que j'ai pas mal, tous mes cours, ils ont transféré. Tu sais, des cours d'histoire, mettons, d'histoire du Texas. Si j'étais allé dans une université ailleurs, là, peut-être, j'aurais été un peu plus compliqué. Il aurait fallu que je reprenne des cours d'histoire de l'État que j'ai, dans le fond, que j'allais, ou d'autres, nécessairement, cours d'histoire. Mais moi, tout a bien transféré, tout a bien été. Puis là, je vais graduer en mai avec mon bac en finance. Donc, tout s'est bien passé à ce niveau-là.
C'est sûr que tu as fait tes devoirs. Excuse, Jeff, c'est sûr que Zach a fait ses devoirs au niveau aussi projection puis école. Ouais. Parce que tu as le choix de beaucoup de cours possibles quand tu es au niveau du JUCO. Tu peux te la couler douce, bien gros, en prenant des cours strict minimum, etc.
Exactement.
Puis, mais si tu as vraiment idée de poursuivre puis aller à l'université, ben il faut que tu aies un certain chorus. Là. Il faut vraiment que tu t'aies cherché les cours que tu as besoin pour l'autre niveau. Sinon, qu'est-ce qui arrive trop souvent, c'est que si le joueur se la coule douce avec deux années de JUCO, ce qu'on n'avance pas au niveau académique, puis on va pas à l'université du côté américain. Quand on revient ici au Québec, malheureusement, il y a rien. On continue le cégep parce qu'on était rendu. Là. C'est comme si on avait fait deux années à pas faire de cours puis à apprendre l'anglais, par contre, puis une culture différente, quand même, c'est intéressant. Mais il faut bien comprendre que si tu sors du JUCO puis que tu t'en vas, tu reviens à la maison comme tel, il y a pas de ces cours-là, seront pas vraiment crédités. Là.
Exactement.
Puis est-ce qu'on a à l'ABC, ou Zach, je sais pas si c'est là que tu as pris ton information, mais est-ce qu'on a des conseillers à l'ABC qui vont aider les jeunes à faire les bons choix à ce niveau-là?
Ça c'est sûr. Je suis allé à l'ABC vendredi, justement, quand je reviens, j'en profite pour aller m'entraîner. En passant, c'est incroyable. Moi, j'étais juste avec les lanceurs, là, je rentre dans le gymnase, puis t'as Justin Therrien, Marc-Antoine Bérubé, puis Carl Gélina comme coach et lanceur, les trois qui sont avec toi en tant que lanceur quand t'as 16-17 ans, même moi qui j'ai 21 ans, puis j'étais encore, je trouvais ça cool, je trouvais ça malade pour de rentrer dans un gymnase, voir ces trois gars-là, c'est super le fun. Mais justement, moi j'avais eu de l'aide de Marc-Antoine Bérubé, il m'avait aidé, conseillé justement pour quand tu rentres au JUCO, il m'avait parlé par rapport à ça, c'est comment. Puis moi, une personne qui m'a aidé beaucoup aussi, qui est plus vraiment dans la structure, c'est Jacob Gosselin-Deschênes, qui était allé à Clarendon College, fait que c'est vraiment lui qui m'a quand même aidé à me placer là. Puis il m'avait parlé justement par rapport aux cours, de s'assurer de bien commencer et tout ça. Parce que tu vas voir, il y en a des gars, comme Sylvain disait, qu'eux, ils vont aller là juste se la couler douce puis ils font pas grand-chose. Fait que moi, je m'étais assuré quand j'étais arrivé là de prendre des bons cours. Fait que j'avais eu autant à l'ABC que autour de moi ici, sur la rive sud du monde du baseball, là, qui m'avait aidé un peu là-dedans, qui m'avait conseillé pour m'aligner sur la bonne voie quand je partais là-bas. Là.
Maintenant, JF, je pense que Zach, il venait de quitter à ce moment-là. On a engagé Amy Soulis qui s'occupe de donner un coup de main pour le transcript des notes, préparer les examens ECT pour rendre l'éligibilité beaucoup plus facile, puis le transfert. Donc, on a quelqu'un maintenant à l'ABC qui travaille à temps plein à donner un coup de main aux parents et aux joueurs pour que tout le côté académique se passe bien, parce qu'on est quand même dans un système d'éducation très différent du marché de l'Amérique, donc du marché nord-américain. Donc, c'est pas toujours évident de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui peut être transféré, etc. Donc, on a quelqu'un là-dessus avec l'ABC, justement, de donner un coup de main aux familles là, quand il arrive le temps d'aller vers les collèges américains.
Zach, j'ai envie que tu me parles un peu de tes forces et tes faiblesses. Tu sais, par rapport à quand tu es arrivé, quand tu as quitté l'ABC, tu es arrivé aux États-Unis, comment tu te compares par rapport à aujourd'hui?
Évidemment, maintenant, on est dans le baseball, c'est un monde qui est rendu. Les frappeurs, on veut des circuits, on veut de la puissance, les lanceurs, c'est la vélocité. Donc, ça, c'est sûr que c'est une grosse chose pour moi, puis une des raisons pourquoi, puis je trouve aussi que ça a été rendu sur le tort. Moi, quand je suis parti à Clarendon, ça a été pas mal ma seule offre parce que je lançais peut-être, je pense, quand j'ai été fait recruter, j'étais peut-être 84, 87 000 à l'heure. Donc, c'est sûr qu'avec ça, tu peux pas vraiment, tu vas pas directement dans un Division 1 ou NCAA, puis tout ça. À moins que tu sois vraiment jeune. Fait que pour moi, ça a été une grosse chose de juste continuer de me développer, de m'entraîner, de lancer, de faire attention à mon bras, surtout que j'ai tellement appris mon année à l'ABC avec Marc-Antoine, des exercices, faire attention à ton bras. C'est pas mal le plus important. Si tu fais pas attention à ton bras, tu te fais blesser, tu te donnes pas la chance de lancer, tu te donnes pas la chance de te faire voir. Fait que pour moi, ça a été une grosse chose que là, au fil des années, j'ai pris des 1000 à l'heure un peu à toutes les années. Que c'est maintenant une de mes forces, tout en travaillant aussi sur mes lancers à effet. Fait que je te dirais que probablement, tout pour mettre ça en contexte en général, là, ça a été vraiment mon éthique de travail, juste vraiment de toujours continuer d'avancer, continuer de travailler. Même pendant qu'on avait le COVID ici en avril, en mars 2020, quand je suis revenu, je faisais mes cours le matin, j'avais ma petite routine, je faisais mes cours le matin, puis ensuite l'après-midi, j'allais me lancer avec mon père quand il venait de travailler, il finissait l'école parce qu'il est prof d'édu. mon terrain, puis ensuite je revenais, je faisais mes exercices pour mon épaule, puis toutes ces affaires-là pour m'assurer de rester en santé.
Zach, est-ce que ça, c'est le bout qu'on a vu Vincent avec un tape après la main gauche? Hein?
Ouais,
c'est ce bout-là? OK. C'est, ouais, je me souviens, il se peignait qu'il avait mal à la main gauche. Ouais, je me souviens pas pourquoi.
C'est drôle, je me rappelle une fois, je suis au terrain, je me lançais avec mon père, puis Sylvain, il avait appelé mon père, puis là, il avait dit, ah, de ce que j'étais en train de me lancer exact, mais je pense qu'il était content, ça lui donne un petit break, là. Là, il avait commencé à avoir mal à la main.
Sa main gauche appréciée.
Ouais, c'est ça, exactement. Fait que non, juste en général, ça a été mon éthique de travail de continuer à toutes les fois que je me lance, de me concentrer sur certains points, puis continuer d'avancer, puis ça fait qu'au fil des années, mes lancers sont devenus meilleurs, j'ai pris la vélocité, puis ça m'a aidé à me rendre où je suis aujourd'hui.
Super intéressant, Zach. Moi, t'es une belle découverte pour moi. En fait, je te connaissais pas du tout. J'ai appris là à l'aide de mes années à BQ à rencontrer quelques jeunes athlètes comme ça. Puis pour vrai, je suis très content de te parler ce matin. J'espère que les gens vont apprécier le temps que tu nous as donné. Zach, il est déjà 9h, mais je veux quand même t'entendre sur la Ligue d'été. Tantôt, tu nous en parlais que t'es allé là cet été. Parle-nous de ça aussi.
Oui, dans le fond, il y a une équipe dans cette ligue-là, ça s'appelle la Northwoods, qui est une bonne ligue collégiale. Là, avec, je dirais que la meilleure, c'est Cape Cod, qui était au Massachusetts. C'est vraiment une très, très bonne ligue. Mais Northwoods, c'est aussi une excellente ligue. Dans le fond, à partir, moi, c'était en 2020, la première fois que je suis exposé. Il y a une équipe qui est c'est toutes des équipes aux États-Unis dans le Nord. Fait qu'au Minnesota, Wisconsin, ces endroits-là. Il y a une équipe qui est en Ontario à Thunder Bay. Moi, c'est l'équipe que j'étais supposé de partir à la base en 2020. Finalement, c'est pas arrivé à cause du COVID. J'étais supposé de retourner là cette année. Ils ont pas pu jouer. Puis, en fait, avec l'année passée, on avait juste pas pu jouer. Mais là, cette année, on dit ceux qui peuvent pas jouer pour Thunder Bay ont fait un repêchage, dans le fond, un repêchage d'expansion. Fait que tous les joueurs qui voulaient jouer quand même dans la ligue, ils sont fait disperser dans les équipes. Moi, j'ai tombé à une équipe, le Rocks de St. Cloud au Minnesota. Puis ça a tombé finalement, on a eu un été incroyable, on a perdu en finale du championnat, parce qu'on a fini avec le record de victoire dans la ligue, le record de victoire pour la concession. Ça a été vraiment une expérience pour vrai inoubliable. On a joué, pourquoi c'est une très bonne ligue, c'est que ça ressemble aux ligues mineures. Fait que les dépisteurs des ligues majeures, ils vont aimer ça parce qu'on joue 72 games en 78 jours.
On joue
littéralement à tous les jours, fait que ça ressemble vraiment aux ligues mineures, fait que c'est pour ça que c'est une ligue qui est quand même beaucoup regardée.
Bâton de bois, Zach?
Ouais, une ligue bâton de bois. Fait qu'on joue, mettons, le mois de juin, je me rappelle, la seule journée qu'on n'a pas joué, c'était le 16 juin. Sinon, on joue à tous les jours. mettons, on joue à domicile du lundi au mercredi. Ensuite, on part sur la route jeudi au dimanche, on revient. Mais c'est une expérience incroyable. On était en autobus tout le temps avec les gars. J'apprends, j'ai connu des gars qui jouent en Californie, à Washington, qui jouent littéralement partout aux États-Unis. Fait que tu rencontres des nouveaux gars que tu n'as jamais rencontrés. Tu passes du temps littéralement avec eux à tous les jours. Puis sinon, côté baseball, personnellement, comme je disais, moi, j'avais pas eu une grosse saison au printemps. Fait que c'était un bon endroit pour essayer de me remettre sur la piste, comme on dit un peu. Puis ça a super bien été. J'ai lancé releveur pas mal tout l'été. Puis c'est bien déroulé. On avait le meilleur pitching staff de la ligue au complet. Là, c'était incroyable. Les lanceurs, toutes les fois, on avait un lanceur qui embarquait. La manche finissait en moins que 2 minutes, c'était 1-2-3, puis ça roulait. Fait que c'est sûr, c'était aussi une belle ambiance. On avait tellement de bonnes équipes. Que c'était un après l'autre, il y a un gars qui embarquait, ça allait bien, puis ça devient tellement plus facile d'embarquer puis d'avoir du succès quand tout le monde a du succès, puis ça fait juste se continuer. Puis
à jouer à tous les jours, Zach aussi, quand tu parles de bonne ambiance, là, c'est quand l'ambiance n'est pas le fun, puis tu te retrouves à tous les jours sur le terrain, c'est plate, quelque chose de rare. Fait que quand tu es dans l'autre sens, là, tu l'apprécies, l'apprécies beaucoup. Comme releveur, est-ce que les pitch counts étaient. Était bien géré par l'équipe, j'imagine.
Nous, c'était incroyable. Les coachs ont été très bons. Notre coach et lanceur, en fait, notre gérant a gagné gérant de l'année, puis notre coach et lanceur a gagné coach de l'année. C'était deux entraîneurs jeunes. Je pense que notre coach le plus vieux avait 25 ans. On avait deux joueurs qui étaient plus vieux que des entraîneurs. Mais c'était super là, sur la coche. Notre coach et lanceur était incroyable. On avait beaucoup de lanceurs. Puis dans le fond, on pouvait, même si j'étais en relève, je savais, mettons, que je pouvais me faire une petite routine là, que j'avais à tous les jours, que je savais que si, mettons, je lançais le lundi, j'allais sûrement relancer, mettons, le samedi ou peut-être le dimanche. Tandis que les partants, on avait 7 jours de game, fait qu'on avait un partant à tous les jours, puis il lançait chaque semaine. Mais les pitch counts, les coachs, ils géraient juste ça. Il n'y avait pas de limite. Je pense qu'il y a une limite de 100 lancés pour les partants. Après 100 lancés, ils peuvent plus commencer de frappeur. Puis il y avait une limite aussi, c'était quand même pas drôle, mais c'est une limite de 35 pitches par manche. Si tu fais 35 pitches, tu peux pas retourner la manche
d'après. OK, intéressant.
Si, mettons, puis ça tombe, on a eu un partant, puis c'était le meilleur lanceur, mais il y a eu une sortie que ça a moins bien été, puis en première manche, c'est rendu à 37 lancés, puis après, il pouvait pas retourner. Fait que c'est là que des fois, ça change un peu la routine. S'il y a un partant qui va pas, là, mettons, un 4-5 manches, bien là que tes releveurs arrivent plus tôt. Mais on avait, c'était super bien géré. On avait une bonne routine. Les gars, on pouvait s'attendre à quand est-ce qu'on lançait. En
ouais, c'est ça.
Pas d'avant, tu sais, fait que...
C'est le mal de la guerre, ça, avec tes trop jeunes. Quand t'es mis dans un poste de releveur, comme on a fait avec toi, la gestion est compliquée avec la compétition. Tu sais, dans le sens que c'est le nombre de fois qu'on t'envoie t'échauffer pour rien qui tue.
Exact.
Fait que les gens vont voir le nombre d'apparitions, puis ils vont dire, ben, il me semble qu'il a perdu le vélo, puis il a une pitché une fois cette semaine, et tu t'es réchauffé trois fois. Ouais. Fait que ça, le dosage de ça, c'est hyper compliqué, là, surtout avec les plus jeunes.
Puis moi, ça a été, puis juste rapidement, ça a été, je pense, c'est une raison pourquoi ça a moins bien été, c'est au printemps. C'est que depuis que j'étais lanceur, j'étais partant. J'avais été lanceur partant. Dans mes deux années avec le London, j'avais été lanceur partant. Puis l'automne dernier, à Tarleton, j'ai été partant tout l'automne, ça se fait un été. Fait que quand l'année a commencé, j'étais deuxième partant. Ça a vraiment pas bien été les trois premiers départs. Le deuxième, ça a bien été, mais le premier puis le troisième, pas bien été. Puis ensuite, j'ai tombé releveur. Puis là, j'étais perdu un peu. Je savais pas. Ma routine, j'avais une bonne routine comme partant. Mais là, comme releveur, j'étais pas habitué. Fait que, mettons, j'étais allé me réchauffer le vendredi. Je me suis réchauffé le samedi. J'ai pas embarqué. Puis là, j'ai embarqué le dimanche.
Ça fait trois jours de suite que tu lances.
En ligne que je fais un bullpen. Ça a été ça le gros ajustement que ça m'a pris. J'ai pas été capable de m'ajuster. Ça a été difficile toute l'année. Puis une fois que je me sentais bien, mais la fin de semaine d'après, non, ben je m'étais réchauffé ou pas réchauffé. Fait que ça a été ça.
Tu peux pas faire des muscles, t'es pas capable de faire aucune musculation parce que tu sais pas quand est-ce que tu vas lancer, c'est inconnu. C'est vraiment très dur à gérer ça là-dessus.
Zach, j'ai envie de savoir, c'est quoi la suite pour toi là, les prochaines semaines au Québec, puis après les objectifs, parce que tu vas terminer tes études, comme tu as mentionné tantôt, au printemps, puis après... moyen long terme, mettons.
C'est ça. Là, je vais en profiter pendant les fêtes, justement, aujourd'hui. Là, puis c'est une activité aussi, une chose. Là, quand j'étais à l'ABC vendredi, les Justin, puis tous les gars, ils nous accueillent, là, des anciens, comme si on allait encore là, puis il a dit, tu reviens quand tu veux. Fait que là, cette semaine, j'en profite, c'est la dernière semaine. Fait que je vais aller me lancer à l'ABC. Je m'entraîne, je m'entraîne à De Mortagne, mon ancienne école secondaire, je vais m'entraîner là. Et ensuite, j'allais me lancer à l'ABC. Fait que je vais faire ça pendant les fêtes. Le plus que je peux me préparer pour la saison. Puis là, l'objectif vraiment, c'est, et comme je gradue au printemps, ça va être d'avoir la saison, je me concentre sur la saison. Puis si j'ai une grosse saison, je vais espérer, soit comme repêchage, peut-être plus dans les dernières rondes, étant donné que je suis pas dans une très grosse école, ou comme agent libre à la fin de l'année, à la fin du printemps. Dans le fond, ça, c'est mon objectif à court terme, là, d'avoir une grosse saison, puis ensuite de signer professionnel pour commencer ça. Ben, je vais avoir gradué. Fait que pour moi, c'est ça l'objectif. Mais, c'est ma quatrième année en l'école, mais comme l'année COVID, Sylvain, on a parlé un peu tantôt d'éligibilité, on a tous regagné une année. Fait que c'est ma troisième année sur le terrain. Fait que si ça fonctionne pas ou j'ai une bonne saison, mais pas assez pour me faire repêcher ou signer, il me reste une dernière année que je pourrais retourner l'année prochaine pour aller jouer, dans le fond, ma dernière année d'éligibilité sur le terrain. Puis en classe, je ferai ma maîtrise. Aux États-Unis, la maîtrise, c'est un an. Fait que si ça fonctionne pas, je commencerai avec deux cours, c'est 10 cours de 3 crédits. Je commencerai avec des cours cet été. Puis j'étendrai ça jusqu'à en mai, dans le fond, mai 2023, qui serait ma dernière session aux États-Unis. Puis là, je finirai ma maîtrise si je retourne ma dernière année, dans le fond.
Et l'été, la Ligue Cape Cod, c'est-tu possible?
Dans le fond, c'est ça l'objectif. Si jamais le repêchage ou signer, ça n'arrive pas, là, pour l'instant, je ne retournerai pas dans la Ligue que j'ai eu l'été, que j'étais allé l'été dernier, parce que c'est ça mon objectif. J'ai un de mes anciens entraîneurs à Clarendon qui coach Cape Cod. Pour l'instant, son équipe est pleine. Puis moi, mon coach à mon école, il m'a dit de pas m'en faire avec ça. Je vais me concentrer sur la saison. Mais si j'ai une assez bonne saison puis qu'il y a une place qui peut s'ouvrir dans la Cape Cod, c'est définitivement la ligue que je m'en irais pour cet été. Là,
ouais, c'est la grosse ligue.
Exactement.
Tout à fait. J'invite encore une fois tout le monde parce que l'entrevue qu'on fait présentement va être disponible en audio à partir de midi. Donc, sur toutes les plateformes de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Et tout bon podcatcher. Merci les boys. Écoute, on a fait 40 minutes au lieu de 30, puis je vois que l'intérêt est encore là parce qu'on a du monde encore présent.
On va augmenter ton salaire, Zach.
Ouais. Un gros merci pour vrai. Moi, j'apprécie ce genre de discussion-là, puis on pourrait en refaire encore une vingtaine, trentaine de minutes parce que ça touche beaucoup de sujets délicats dans la FED. Puis je trouve ça super pertinent et intéressant. Je te lance l'invitation peut-être en 2022, savoir comment ça se passe de ton côté, là, peut-être en direct de ton collège ou du terrain, on sait jamais.
Certainement, avec plaisir. Merci de m'avoir eu.
Merci, Zach.
Plaisir. Merci, Sylvain, d'être là ce matin en remplacement de Max Hock, qui est à Las Vegas. Et on se revoit prochainement. Je pense qu'on se voit lundi prochain, en fait, au plus moins. Fait que Toujours un plaisir. Merci à tout le monde d'être là. On se revoit mercredi. Salut.
À bientôt tout le monde.
De la famille H2O Web Media.